faut que je recommence. Je m'excuse. Donc je redis que je suis très heureuse d'accueillir au Centre Sèvres Emmanuel de Saint-Aubert. Il est membre donc, des archives UCERL, chercheur au CNRS, et il a beaucoup travaillé sur Merleau-Ponty, sur lequel il a écrit plusieurs ouvrages. Vous trouverez très facilement les titres sur Internet, mais je voudrais tout de suite faire un tout petit peu de publicité pour son dernier ouvrage, « Être et chair, du corps au désir, l'habilitation ontologique de la chair ». Il vient de paraître en 2013. Il me semble que votre particularité, ce n'est pas simplement d'être phénoménologue, mais c'est d'avoir aussi un vrai contact avec l'éducation spécialisée, avec la psychanalyse, et que cette position au carrefour de la psychanalyse, de la phénoménologie et d'un contact avec l'éducation spécialisée vous permet sans doute, certainement, de parler des choses, de rejoindre les questions que, je suppose, les uns et les autres vous vous posez ou vous portez en vous-même. Et donc, vous avez choisi de nous parler d'une notion qui vous tient à cœur, d'après ce que j'ai compris, avec un peu un néologisme, cette notion de portance. Je redis le titre que vous avez proposé pour cette conférence. « Au fondement de notre être au monde, la portance, nécessité et enjeux anthropologiques d'une nouvelle notion ». Donc, dans un premier temps, nous laissons longuement la parole à Emmanuel de Saint-Aubert et bien évidemment, dans un deuxième temps, nous pourrons échanger, lui poser des questions ou discuter tel ou tel point. D'avance, merci.
Merci, merci à vous, merci pour votre accueil. Il s'agit d'un travail en cours avec ce que ça peut avoir d'inachevé, d'hésitant ou d'intuitif parfois aussi. Avec sans doute un projet de livre derrière, et quelque chose que je ne travaillais pas, ou que je ne travaille pas, enfin c'est assez récent, mais que je ne travaille pas au départ à partir de Merleau-Ponty, mais plutôt que j'enseigne depuis quelques années dans la formation des psychologues cliniciens à Montpellier et dans la formation des enseignants spécialisés. Voilà. Mais néanmoins, donc même si ce n'est pas d'abord avec ou contre Merleau-Ponty que mes réflexions ici se construisent, dans le cadre de cette présentation ce soir, je vais me permettre de commencer par introduire cette notion de portance en contraste avec Merleau-Ponty. Car la portance, à mon sens, est à la fois appelée et manquée par son anthropologie et son ontologie. Donc les 10 premières minutes vont être un peu philosophiques, je m'excuse d'avance pour ceux qui parmi nous ne sont pas philosophes. Après, je pense que ça ira mieux. Voilà. Et en même temps, je vais essayer d'être clair. Alors, je m'excuse, j'ai la voix cassée, c'est ce que c'est de faire le pitre pour les enfants. Bon. Pour Merleau-Ponty, nous sommes chair, ce qui signifie corps animé et animant pour lui, en relation avec le monde et avec autrui. Très bien. Mais quelles sont les grandes modalités de cette animation? Depuis un siècle, la philosophie et les sciences humaines, à commencer par la psychanalyse, nous ont habitués à placer au sommet de ces modalités la pulsion et le désir, sans différencier suffisamment d'ailleurs ces deux notions. Et il n'est pas rare de voir accorder au désir une telle puissance de vie qu'on pourrait le croire autosuffisant. La phénoménologie tardive de Merleau-Ponty, de son côté, insiste elle-même sur le désir, avec audace, et dans une conception d'ailleurs étrangère à la pulsion, et dans un horizon explicitement ontologique, le désir comme ouverture à l'être et ouverture privilégiée. Alors justement, dans cet ouvrage, j'aborde cette question du désir et dans sa différenciation avec la pulsion. Donc ces pensées du désir, dans la puissance qu'elle lui accorde, eh bien, il n'est pas certain que ces pensées, d'ailleurs diverses et parfois incompatibles, n'est pas certain qu'elles soient affranchies de la mise en mots d'un fantasme, celui de cette puissance même. Il ne va pas de soi que nous désirions. Il ne va pas de soi que nous soyons en mesure de désirer. Le désir ne suffit pas, ou plutôt, il ne se suffit pas à lui-même, il ne tient pas sa puissance que de lui-même, il a besoin d'une assise. Se pose ainsi la question de ce qui soutient le désir, le porte, l'autorise à naître ou à renaître, à grandir et à persévérer. dans une approche freudienne un peu simplifiée, bon, la pulsion est une poussée irrépressible en vue de supprimer ou du moins de réguler un état de tension. Du coup, la pulsion est conservatrice, régressive, elle vise un retour à l'état antérieur, au déjà vécu, au déjà connu. D'elle-même, elle ne montre aucune ouverture, aucune appétence pour l'inconnu, pour l'invisible, pour l'imprévisible. En un sens même, elle ne les tolère pas. Chez Merleau-Ponty, avec le désir, il en va tout autrement, tout au contraire presque, car le désir est de lui-même ouverture à l'indétermination. Il s'ouvre de lui-même à ce que Merleau-Ponty nomme l'invisible, à l'inaccessible, à l'imprévisible, à l'avenir, à la profondeur, à l'indéfini du monde perçu. Ou encore, dans sa terminologie plus ontologique, le désir est ouverture à l'être pré-objectif, que Merleau-Ponty aime beaucoup aussi nommer l'être profond. Mais cela ne va pas sans tension, et le désir est d'ailleurs en lui-même une tension. Ne serait-ce que parce qu'il est aux prises avec, comme tiraillé par ou déchiré entre son attente inépuisable et l'indéfini du monde, entre sa soif de l'inaccessible et ce qui reste à jamais inaccessible. Et il ne va pas de soi. Il ne va pas de soi de tolérer l'invisible, l'imprévisible, l'indéfini. Encore faut-il consentir à cette négativité aux multiples visages. On peut avoir un grand désir et ne pas endurer, ne pas supporter telle inconnue, telle indétermination, telle imprévue, telle inaccessible. Pour ainsi s'ouvrir à cette négativité, le désir doit lui-même être porté, porté par autre chose que lui-même. Pour s'ouvrir à la profondeur, à l'invisible, l'inaccessible, etc., encore faut-il s'y autoriser, s'y abandonner, encore faut-il y croire. Car cette ouverture n'est pas pure passivité. Elle est aussi, comme Merleau-Ponty l'a bien mise en évidence, adhésion et abandon. Elle est aussi don. Comment s'abandonner sans déjà se donner? Et il faudrait ajouter, elle est aussi une libre ouverture. Elle implique aussi l'exercice d'une modalité fondamentale de la liberté. Une libre ouverture, abandon, adhésion, s'abandonner à l'indéfini de la profondeur, adhérer à un avenir pourtant indéterminé et indéterminable, imprévisible. Cette ouverture fait appel à un libre acte de foi, en deçà de toute croyance. Or, si Merleau-Ponty esquisse une conception du désir, il insiste aussi, et même d'abord, sur la perception et ce qu'il nomme la foi perceptive. La perception et la foi perceptive comme relation fondamentale au monde et à autrui, et là aussi comme modalité essentielle de notre ouverture à l'être. Mais sans que l'on parvienne à identifier clairement ce qui différencie perception et désir, foi et désir. Alors, mes travaux actuels s'acheminent vers la nécessité d'une telle différenciation et vers une forme de préséance de la perception et de la foi sur le désir. Je voudrais ici introduire cette différenciation et cette préséance en comprenant que la relation fondamentale engagée par la perception et la foi perceptive est une relation de portance, une épreuve de la portance de l'être au double sens, passif et actif, de ce verbe éprouver, ressentir et mettre à l'épreuve. Dans l'anthropologie de Merleau-Ponty, si chair et relation sont étroitement liées, ce lien ne peut être pleinement compris que dans une perspective ontologique. La chair, en deçà et au-delà de son ouverture au monde et à autrui, s'ouvre à l'être. Non pas l'être de ce que Merleau-Ponty appelle l'ontologie de l'objet, non pas l'entière positivité de l'être sartrien, encore moins, pour Merleau-Ponty, encore moins le dieu de survol de Leibniz, pure essence qui signe à ses yeux le sommet de la théologie explicative. Mais un être, écrit Merleau-Ponty, je cite, un être qui porte pêle-mêle avec nous d'autres hommes et fait tenir ensemble toutes choses. Cet être où toutes choses sont ensemble, je cite encore, cet être où toutes choses sont ensemble, soutient en retour les racines les plus primitives de notre foi perceptive, ce que Merleau-Ponty appelle aussi une foi interrogative, de notre étonnement devant ce qui est. La chair est ainsi ouverte sur l'être en tant que lien des êtres. Dès cette ouverture perceptive qui est au fondement de ses relations avec le monde et avec autrui, la chair s'expose à la portance de l'être. Un être non pas omnipotens, mais omnitenens, porteur de ces relations. Ça, c'est pas, ces vocables ne sont pas chez Merleau-Ponty, c'est une petite allusion à un problème antique de traduction du grec pantocrator. Toutefois, s'il ne va pas de soi que nous désirions, je le disais tout à l'heure, il ne va pas de soi non plus que l'être soit désirable, ni même que l'on puisse s'appuyer sur lui pour s'ouvrir au monde et à autrui. Il peut être écrasant, vertigineux, angoissant. Pour le dire autrement, la portance non plus ne va pas de soi. Merleau-Ponty parle de l'être comme d'un être vertical. Un être vertical qui nous permet de nous redresser et d'aller de l'avant, debout, devant, dans la profondeur du monde, mais sans répondre véritablement à la question de savoir comment l'être nous verticalise. Pour pouvoir cheminer dans cette verticalité, encore faut-il avoir confiance dans la solidité du monde, une assurance pas seulement en soi, mais aussi et même d'abord dans le sol qui nous porte. Et en deçà de cette assurance, encore faut-il que le monde véhicule cette solidité et cette consistance de l'être, qui ne sont pas garanties. Encore faut-il que l'être nous promette quelque chose et tienne déjà cette promesse. Alors certes, Merleau-Ponty voit l'humanité aux prises avec l'adversité, dans une nature susceptible de se dérober sous ses pas, de le détruire et d'être détruite par lui. Toutefois, si sa conception de l'être importe donc une conjonction de force et de fragilité, à mon sens, elle n'en tire pas toutes les conséquences. Son ontologie, son endo-ontologie, comme il le dit par endroit, est hantée par ailleurs par plusieurs figures ultimes à forte valence anthropologique, l'accouplement, la prégnance et la surrection. Mais prégnance et accouplement ne suffisent pas à penser la surrection, à penser la naissance. Pourtant, son introduction à l'ontologie, c'est un manuscrit inédit, son introduction à l'ontologie s'ouvrait par une formule programmatique particulièrement forte, qui est d'ailleurs présente à l'ensemble de mes travaux. Je me souviens du jour où j'ai ouvert ce volume pour la première fois, je suis tombé sur le premier feuillet que je vous cite. Il n'y aura pas beaucoup de citations, mais bon, celle-ci est importante. L'ontologie consiste à formuler cette naissance et co-naissance. Merleau-Ponty l'écrit comme Claudel dans l'art poétique, un co-naissance. L'ontologie consiste à formuler cette naissance et co-naissance, à trouver un au-delà du naturalisme et de l'idéalisme, à peindre l'homme comme il est vraiment, non pas comme l'ébauche d'une subjectivité absolue, mais comme surrection, lumière au sommet de cet incroyable arrangement qu'est un corps humain. Fin de citation. Eh bien, ma réflexion sur la portance entend justement penser, au-delà de Merleau-Ponty, les conditions de possibilité de cette surrection et de notre co-naissance. Voilà. J'en ai fini pour l'articulation avec Merleau-Ponty, même s'il va revenir, et c'est inévitable de temps à autre. Allons-y maintenant pour une sorte de partie préalable qu'on pourrait appeler, l'introduction pourrait plus s'appeler « Le désir ne suffit pas » ou « Pourquoi la portance ?» Et maintenant, cette partie préalable pourrait s'intituler « Une première définition ». Un peu risqué, comme ça. Bon, si on allait à l'essentiel, ça va être un peu abstrait, un peu suggestif. Bon, voilà, on y va. Quelqu'un nous porte. Mais ce n'est pas d'ailleurs forcément directement quelqu'un. Cela peut être un corps commun, une communauté humaine, la famille, un groupe d'amis, la classe pour les élèves, un corps professionnel ou institutionnel, etc. Cela peut aussi être un élément. La terre, l'eau, l'air, le feu, ou encore le bois, le métal, la pierre, ou la montagne, le désert, l'océan. Un élément dans la mesure où nous vivons spontanément et inconsciemment cet élément comme corps. Quelqu'un, ou donc un corps commun, ou encore un élément, nous prête sa solidité, sa consistance ou cohérence, sa constance ou permanence ou fidélité, dans une certaine dimension de son être. Nous prête une ligne de cohésion de son organisation spatiale temporelle, identitaire, relationnelle. Quelqu'un nous prête une dimension de son être, une dimension de solidité de son être, ou plutôt une dimension de son rapport à l'être, une dimension de solidité de son rapport à l'être, de son rapport à ce qui est solide. Quelqu'un nous prête sa portance, c'est-à-dire celle qu'il reçoit lui-même. deux remarques tout de suite. Il ne s'agit pas d'un confort affectif, encore moins d'un état fusionnel. Cette solidité aux constances opère dans et par un minimum de résistance, sinon d'adversité. Parfois même, peut-être je l'évoquerai, dans l'agressivité, voire la violence. Donc dans et par un minimum de séparation et de limite, y compris dans l'exemple majeur de la prégnance, où on est contenu, fonction contenante, hein, et pas simplement enveloppé au sens de conserver au chaud. Deuxième remarque, ce qui nous est donné dans la portance, c'est une portance qui a été reçue d'ailleurs. Quelqu'un nous prête la portance dont il bénéficie lui-même, y compris dans la portance d'un corps commun, l'importance communautaire, ou dans la portance d'un élément du monde, la portance semble venir d'ailleurs, comme si elle était elle-même reçue et transmise par le corps commun ou l'élément porteur. Autrement dit, ce qui porte est médiateur. Il ne s'agit donc pas, en tout cas normalement, hein, d'une relation duelle avec ce que cela peut avoir de fusionnel ou de violent, d'enfermant ou d'aliénant. Pour continuer dans voilà, quelque chose à grands traits, maintenant les effets, les fruits de la portance. J'en distinguerai trois groupes. Premier, nous reprenons pied, nous sommes réassurés sur une base et dans nos fondements. Nous sommes dressés ou relevés dans l'être, dans la solidité et la constance de l'être, pour aller de l'avant. Avec tout ce que cela suppose d'assurance, de confiance active, nous sommes verticalisés dans l'être et par l'être. Deuxième fruit, nous sommes libérés des faux impératifs qui encombrent notre identité et notre action. Impératif d'avoir, de savoir, de pouvoir, pour se sentir exister, pour être conforme à, pour répondre bon. Impératif d'être ceci ou cela. Libéré des représentations et des affects en tant qu'ils nous enferment, en tant qu'ils bloquent l'expansion de notre être, referment notre avenir. Cette libération est donc aussi réouverture d'une certaine forme d'espérance. Troisième fruit, ainsi réassurés et désencombrés, nous sommes aussi ressourcés, réinitialisés, remis en selle dans le désir. Non le désir de ceci ou de cela, mais en deçà de tout affect et de toute représentation, dans le désir de continuer à être, de continuer à vivre, de vivre, d'être. Réinitialisation de la vie désirante. Je ne vais pas développer tout ça. Mais en partie, voilà. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais évoquer rapidement une métaphore qui d'ailleurs soutient le terme même de portance. C'est pas tout à fait un néologisme en fait. Et puis aussi un fait clinique, un geste concret qui nous introduit déjà à son sens même. Donc une métaphore et un geste. La métaphore physique, enfin, c'est un terme de mécanique en fait. Métaphore aéronautique, aérodynamique. La portance dont bénéficie un avion, ou encore la portance de l'eau, celle d'un élément, hein, un objet placé dans un flux d'air ou un autre fluide, hein, comme l'eau, subit une force aérodynamique ou hydrodynamique, et on décompose cette force en une composante dans le sens du vent relatif, s'il s'agit de l'air, la traînée, et une composante perpendiculaire, la portance. Ce phénomène physique implique une résistance de l'élément, de l'air, de l'eau, de la terre, sans laquelle l'avion ne peut voler, sans laquelle mon pied ne peut se poser sur le sol, mon corps ne peut flotter sur l'eau. Même dans l'espace, en dehors de l'atmosphère, on peut déployer des voiles solaires, mais elles sont portées par la quantité de mouvement transmise par les photons. Pas rien. Transposée sur un plan anthropologique, l'idée est que je ne peux marcher ou prendre mon envol sans un minimum d'exercice d'une résistance. Passons tout de suite de la métaphore au geste. Un geste aptonomique. Vous savez, l'aptonomie, l'aptothérapie, fondée, inventée, développée par Franz Wellman. Alors, ce n'est pas la clinique elle-même que je vais développer, encore moins les livres de Wellman qui sont très jargonnants et qui, je ne pense pas, malheureusement, n'illustrent pas forcément très bien ces cliniques, mais juste une photographie assez célèbre où on voit Wellman porter dans la paume de sa main un nourrisson qui s'assoit, qui se redresse, qui est vertical. Alors même que d'ordinaire, on disait en pédiatrie qu'à cet âge, l'enfant n'était pas capable de se tenir assis, ou en tout cas, il ne fallait pas le faire, voilà, de redresser sa colonne vertébrale. Donc une autre façon de porter le bébé, non pas en l'enveloppant là, mais en le développant, en l'ouvrant à, une manière de lui donner sa verticalité. Cette posture amène tout de suite un commentaire. D'abord, pour se tenir ainsi, il faut un geste. Un geste, ce n'est pas purement technique. Un geste porté par une intentionnalité. C'est bien là que se joue l'importance. Cela ne repose pas sur des gestes du corps objectif. Il n'existe pas de mécanisme automatique qui ferait que l'enfant se redresserait. Car ce qui est en jeu, c'est le corps phénoménal, un corps intentionnalisé, médiateur d'un désir, d'une intention. Le geste même de la portance se joue dans une confiance dans la possible verticalité de l'autre. Confiance performative, si l'on veut. Tout se passe en effet, comme si sans ce geste, le nouveau-né n'était pas capable d'une telle action. Sa compétence semble différente en l'absence ou en présence de ce geste. C'est comme s'il puisait une partie de la force ou du tonus musculaire nécessaire pour le faire, dans le geste même de cette personne qui le porte. Alors, cette métaphore et ce geste nous permettent déjà d'introduire plusieurs caractéristiques dynamiques de la portance. D'abord, il y a un lien étroit entre portance et tonicité, entre portance et force, entre portance et motricité. Comme si la portance était essentielle à donner ou redonner la tonicité, la force de se tenir dans l'être et de se mouvoir. Je dis bien se mouvoir, ce n'est pas n'importe quelle motricité. En particulier, il ne suffit pas de se laisser porter. Il faut aussi plonger pour aller de l'avant et, si j'ose dire, voler de ses propres ailes. Il y a comme une dimension d'autosustentation chez celui qui est porté. D'ailleurs, dans l'image du nourrisson qui se redresse sur la main de Veldman, eh bien justement, il se redresse. Il ne fait pas que recevoir une verticalité qui vient d'autrui. Autrement dit, il se donne à lui-même une verticalité qui est la sienne. Donc il ne s'agit pas uniquement de se laisser porter, la portance implique l'éveil ou le réveil de mon propre dynamisme. Dans le prolongement immédiat de ceci, on comprend déjà que la portance engage une dépendance qui travaille paradoxalement à un gain d'autonomie. C'est subtil, c'est-à-dire que la portance engage à la fois un sommet de la réceptivité et un sommet de la prise d'autonomie. Une extraordinaire intrication de dépendance et d'autonomie. Plus précisément, la portance engage les plus décisives prises d'autonomie au cœur même de l'abandon le plus total aux dépendances les plus radicales. Je redis ça. La portance engage les plus décisives prises d'autonomie au cœur même de l'abandon le plus total aux dépendances les plus radicales. Enfin, pour terminer cette partie préalable, cette première partie, quelques remarques que je ne développerai pas, faute de temps, autour de ce que l'on pourrait appeler la paradoxale fragilité de la portance. Elle est ce qu'il y a de plus fort, et pourtant nous la manquons si facilement, aussi bien dans la vie que sur le plan théorique. Il y a comme une pauvreté inhérente à la portance, une pauvreté en essence, si j'ose dire, corrélative de sa richesse existentielle. Elle se joue tout entière au présent. Elle échappe en grande partie à la représentation. Ça peut être facile d'en parler, du coup. Ne serait-ce que parce que l'une de ses vertus est de nous en faire sortir. La portance, si je peux permettre cette formule, n'est pas du côté de la représentation, mais de la présentation. Elle nous permet de nous déposer, de nous désencombrer, de consentir à l'indétermination. Elle nous enrichit en nous appauvrissant, en nous libérant. Et ceci fait que, paradoxalement, alors que la portance reçue laisse en nous les traces structurelles les plus fondamentales, les plus axiales, eh bien elle laisse peu de traces mnésiques, de souvenirs au sens classique, comme on se souvient d'un événement. D'où l'ingratitude, d'ailleurs. Nous sommes souvent ingrats vis-à-vis de ceux qui nous ont donné une portance. Commencer par les parents, mais pas seulement. On ne réalise combien on a manqué de portance que quand on la reçoit enfin, quand on la retrouve enfin. Par ailleurs, on ne peut pas se la donner à soi-même. On ne peut pas véritablement la fantasmer, l'imaginer, se la donner à soi-même de manière imaginaire. Aussi a-t-on une faible conscience de ce qu'elle est. Ainsi, la portance a une situation épistémologique particulière. Elle est difficile à décrire, difficile à représenter. Et du coup, ne pouvant être figurée ou si difficilement, elle est du coup facilement défigurée. Elle est fragile, souvent défigurée. On la confond avec ce qu'elle n'est pas. J'appellerais, sans développer, des fausses portances, des portances perverses, voire de l'anti-portance. On croyait que l'autre allait porter, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Il n'écoute pas, par exemple. Absence ou vide de portance. Ou bien sa portance est perverse. C'est pour nous séduire, nous posséder, nous manipuler. Ou encore, son propre rapport à l'être, sa propre portance reçue, est vide ou perverse. On s'abandonne à son désespoir, à sa destructivité. Par ailleurs, la frontière est parfois ténue entre portance et son contraire, ou de l'antiportance, entre la profondeur et le vertige, l'abîme. La profondeur qui nous attire, qui nous verticalise, qui nous anime, dans laquelle nous nous redressons. Cette profondeur dont Merleau-Ponty parle tant, et ce dont il ne parle pas assez, l'abîme, le vertige, l'abîme vertigineux, dans lequel nous chutons, nous nous noyons. Il en va ainsi dans notre rapport à beaucoup de choses. J'évoquais les quatre éléments. Je pense souvent aux psychanalyses des éléments de Bachelard, qui s'est très bien montré cette ambivalence du rapport à l'élément. On peut prendre un exemple. Voilà, tel enfant qui, les premières fois qu'il va à la mer pour apprendre à nager, il est bloqué, il a une telle angoisse de cet élément. Et d'ailleurs, il faut le porter pour... Et puis, s'il faut, c'est le même quelques années après qui n'a plus qu'un seul rêve, c'est d'être un navigateur. Et l'eau devient là la navigation, le rapport à l'eau, l'emblème même du désir. Donc, entre désir et angoisse, les deux étant parfois conjoints. Voilà. Il y aurait d'autres exemples. L'importance, du coup, étant donné cette fragilité de sa situation, elle est souvent recherchée à l'aveugle, recherchée en creux, recherchée de manière agressive, voire violente, je ne développerai pas, on va peut-être le faire plus tard, mais c'est à nouveau en tout cas, voilà, pour dire combien ce n'est pas une affaire de maternage. On pourrait presque dire, je vais être un peu caricatural, mais c'est pour me faire comprendre, voilà, à la limite on rencontre davantage l'importance à l'horizon de la persécution que l'on peut faire subir à une figure de père, que dans le confort affectif que l'on reçoit d'un être maternant. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, on découvre la porte. Alors, ça, je pense, si vous voulez, évidemment, dans le monde de l'enseignement spécialisé, tout ce qu'il peut y avoir dans la relation transférentielle, notamment par rapport à l'enseignant, de testing, d'agression, de provocation. Dans certains cas, on découvre la portance d'autrui une fois parvenu jusqu'à un certain point dans un processus d'agression, de provocation, de persécution, de violence, de trahison, d'infidélité. Après l'avoir mis à l'épreuve, avoir tenté de le déstabiliser, de le décourager nous-mêmes, après avoir testé sur lui notre désespoir, notre mépris, notre désamour, qui sont d'abord désespoir, mépris et désamour de nous-mêmes en fait. Après avoir tenté de détruire en lui tout ce que l'on a pu tenter de détruire, après l'avoir recouvert d'insultes, etc. Et on découvre soudainement sa constance, la permanence silencieuse de sa bienveillance, de sa fidélité, voire de son pardon, de son amour. On découvre en lui une solidité qui n'est pas d'abord le fait de détermination, ses qualités, ses compétences, mais en deçà une solidité qui relève de son existence, de sa manière d'être, qui n'est pas non plus le fait de son autosuffisance, car il ne la tient pas de lui-même. On découvre la portance de son être. Alors, allons-y pour maintenant trois parties qui sont plus préalables. Voilà. la première, au titre un peu trop ambitieux, au fondement de notre être au monde, sur laquelle malheureusement je vais aller un peu vite, en deux volets. Donc ça sera purement suggestif et programmatique, surtout le premier volet. Premier volet, la base commune de notre rapport corporel, intelligent, et désirant à ce qui est. Excusez du peu, là. Bon. Rapport corporel, intelligent et désirant à ce qui est. Bon, autant dire que je ne vais pas vraiment traiter ça, c'est trop. Mais l'idée, là, est de revenir à un fondamental de notre relation au monde, notre rapport précisément à la fois corporel, intelligent et désirant à ce qui est le toucher. Voilà. Avec une problématique sous-jacente, c'est la question d'un toucher non incorporant, d'un toucher non libidinal, qui est une façon de différencier l'importance, non pas du désir en général, mais enfin l'importance du désir quand même. Voilà. Vous savez, c'est évidemment une référence derrière à la psychanalyse en général. Je pense en particulier à Françoise Dolto, cette espèce de formule un peu provocatrice, hein, toucher, c'est coucher. Et puis quand on pense par ailleurs à ce que j'évoquais tout à l'heure, l'autonomie, bon, ben voilà, là, dire que les thérapeutes ne sont pas tous d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire sur cette question-là. Mais voilà, s'agissant de l'importance, justement, l'enjeu est de dégager un toucher qui n'est pas incorporant, qui n'est pas libidinal. Une autre problématique sous-jacente pour moi, c'est chez Merleau-Ponty, parce que chez Merleau-Ponty, d'ailleurs, il dit que ce qu'il a reçu de plus fort dans la psychanalyse, ce n'est pas la question de l'inconscient, non pas que Merleau-Ponty soit contre, mais il en a une conception très audacieuse, qui est un peu décalée par rapport à la psychanalyse, mais c'est l'incorporation, introjection, expulsion, voilà. Et à la fin, chez Merleau-Ponty, on a un peu l'impression que tout est incorporation, tout est in-einander, tout est voilà, prendre en moi et introjecter, expulser. Or, il y a dans le toucher une virtualité en deçà de l'incorporation, un toucher qui éprouve l'existence, un toucher qui s'appuie, qui n'est pas incorporant, mais j'y reviendrai, plutôt réincorporant, intégrant. Voilà. Et en lien avec cette approche du toucher, il y a aussi une façon, donc ça sera purement programmatique, je ne vais pas le faire, de reprendre la question de l'intelligence en deçà de la compréhension. Vous savez, l'intelligence, j'aime beaucoup là, l'approche de Piaget, de ce point de vue-là, l'intelligence comme faculté d'adaptation, assimilation et accommodation. Mais alors justement, l'intelligence entendue comme faculté de compréhension implique une dimension d'incorporation pour prendre en soi et faire corps avec les choses, à la fois par accommodation, parce qu'on consent à ce que nos structures évoluent en fonction de la structure des choses, et par assimilation, assimilation par laquelle je transforme la structure des choses pour l'adapter à la mienne, pour qu'elle fasse corps avec la mienne, avec une dimension digestive, agressive. Mais en deçà même de l'incorporation, et pour qu'il puisse y avoir incorporation, il faut bien qu'il y ait une mise à l'épreuve minimale de la consistance des choses. Et là, on rejoint une racine évidemment essentielle de l'intelligence, l'étonnement. L'étonnement éprouvant, confiant, interrogatif devant les choses qui sont, ce que Merleau-Ponty appelait la foi interrogative. On retrouve à nouveau la foi comme dimension anthropologique fondamentale, dimension autre que les désirs. La foi comme adhésion à l'être, une adhésion étonnée, interrogative, qui éprouve l'être en le mettant à l'épreuve. Donc, l'idée derrière, hein, c'est que l'intelligence, en deçà de la compréhension, est reconnaissance de ce qui est dans cette épreuve confiante, interrogative, de la portance de l'être. Donc le toucher, en deçà de l'incorporation, je ne l'ai pas dit aussi, en deçà de la bipartition cognitive-affective. Ça, j'y tiens beaucoup. Je pense que Merleau-Ponty déjà nous conduit à remettre largement en question, ou en tout cas à limiter les vertus, ou la pertinence, ou les tendues de validité de cette dichotomie entre cognitif et affectif. Eh bien, le toucher, plus largement la perception, mais le toucher de manière sans doute un peu particulière, nous ramène en deçà de cette bipartition, toucher comme relation irréductiblement intelligente et désirante avec ce qui est. Le désir maintenant. La notion de portance trouve sa différenciation et son articulation avec celle de désir de multiples manières. D'abord, le constat que le désir ne suffit pas à faire tenir la personne dans l'être, à faire tenir. On ne peut pas réduire les grandes blessures de la relation, qui sont d'ailleurs les grandes blessures tout court, aux blessures du désir. Il y a aussi les blessures de la portance, ou du moins les grandes blessures du désir seraient sans doute à formuler, en fait, comme blessures de portance. On peut ne pas avoir été désiré. Cela peut fragiliser considérablement notre assise, notre identité, notre rapport au monde. Ben, on peut aussi avoir été étouffé de désir. Non pas trop désiré, mais mal désiré. Ne pas avoir été porté. On peut avoir été étouffé de désir et ne pas avoir été porté. C'est dévorateur, il n'y a pas de médiation, pas de tiers, il n'y a pas de portance. Et là aussi, d'une certaine façon, on est jeté dans le vide. Cette fois, ce n'est pas le vide de la séparation, c'est le vide peut-être un peu paradoxal de la fusion. C'est qu'il ne suffit pas d'être désiré. Encore faut-il que quelqu'un ait désiré que je désire l'être, et désiré l'être pour moi. Non pas du tout à ma place, mais se soit posté comme un médiateur entre l'être et moi, sans autre désir que je sois, et non que je sois ceci ou cela. D'où l'intuition que la portance est un pivot de la naissance ou de la renaissance du désir chez la personne. J'y reviendrai. Deuxième point d'articulation et de différenciation entre portance et désir. Dans la portance, je ne désire pas l'autre. Je désire l'être pour l'autre. Ou plutôt, je présente l'autre à l'être, dans le désir qu'il soit, qu'il grandisse, qu'il devienne ce qu'il a à être. Il n'y a pas ici d'incorporation au sens libidinal. Pourtant, il peut y avoir une forme de corps à corps dans l'exercice de la portance, dans la façon de situer l'autre dans l'être et la relation, de le tenir, voire le contenir, de façon qui lui redonne une place, une situation, dans un corps commun. La portance se joue dans une attitude non incorporante, mais réincorporante. J'y reviendrai. Deuxième volet de cette première partie, au fondement maintenant de notre relation avec autrui. Une relation qui n'est ni séparation ni fusion, mais médiation, que j'évoquerai très brièvement à travers trois gestes, trois grandes attitudes. Laisser être, présenter à, engendrer. La portance comprend un laisser être autrui dans mon rapport à l'être, le laisser s'abandonner dans mon abandon à ce qui est. Notre être, notre corps, notre âme notamment, devient un moment de repos pour l'autre tout en le redonnant à lui-même. On accueille et recueille l'être de l'autre pour en quelque sorte le laisser être contre nous, en nous, en lui communiquant la solidité de notre rapport à l'être. Laisser être. Notre schéma fondamental ou geste fondamental de la portance, c'est celui de la présentation, présenter autrui à. En la portance, ce n'est pas moi, stricto sensu, qui porte, mais c'est l'être que je prête à l'autre qui le porte et dont je suis médiateur. La portance est structurellement une relation ouverte sur un tiers. D'une certaine manière, il n'y a qu'une seule portance, celle de l'être. Et enfin, dans la foulée de cette évocation du laisser-être et du présenter-à, la question de la prégnance et de la naissance. Au premier abord, la portance semble très liée à la prégnance. Et certes, il faut sans doute faire l'hypothèse que la première portance, ou proto-portance, est la nidation, la gestation, être attaché à, rattaché. Voilà, importance capitale de cette première portance. Mais la prégnance est en vue de la naissance. Et la portance me semble avoir plus directement affaire avec la naissance qu'avec la prégnance. Tief Prinkeps, là, et que les parents présentent l'enfant au tiers, qui est la vie, le monde, voilà, ce que l'enfant a, son avenir, ce qu'il a à être. La mère, d'ailleurs, sa portance est appelée à cette présentation. Si elle y parvient, lorsqu'elle y parvient, elle se déprend de sa fonction de pur réceptacle et enveloppe. Elle ne fait pas que prêter sa chair à l'enfant, se prêter à, se donner à, mais prête le monde à l'enfant et prête l'enfant au monde, à la vie, le présente à un être plus large qu'elle seule. Elle présente l'enfant à ce qui est, au lieu de le présenter à son seul corps. La mère prête une autre portance que la sienne, celle du père, celle du monde. Elle renonce à être la seule portance pour l'enfant, ce qui est à la fois une forme de déchirement et en même temps une dilatation, une joie, la joie de la naissance. Ce faisant, c'est à la fois un dépassement et un accomplissement de la prégnance. Cette expérience, c'est impossible à qui est dans la fusion avec l'autre, puisque le corps de l'autre, l'être de l'autre, n'existe pas. Ce qui fait que, et ce sera une question que je ne trancherai pas, bien délicate d'ailleurs, on pourrait croire en première analyse que la portance est d'abord d'essence maternelle. Chez Winnicott, par exemple, la question du « holding » semble quand même plutôt développé du côté de la mère. me risquerai pas à dire qu'elle est plutôt d'essence paternelle, je pense qu'elle est voilà, partagée par les deux. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas uniquement ou d'abord la qualifier de maternelle. Voilà. Ce qui n'enlève rien à l'importance de la mère, au contraire en fait. Deuxième partie, foi et déposition. Foi et déposition. Alors, je viens d'évoquer trop rapidement l'importance au fondement de la relation avec autrui. Eh bien, il y a un fondamental de la relation avec autrui, hein. Ce sans quoi rien n'est possible, c'est la confiance. Sans confiance, aucun lien n'est possible, aucun lien d'amitié ou d'amour, aucune collaboration professionnelle, aucun lien éducatif non plus. Avec les enseignants spécialisés, c'est d'ailleurs la première question qu'on travaille ensemble. Et puis par ailleurs, dès le début de mon exposé, nous avons constaté un lien étroit entre, entre portance et foi. Alors justement, plutôt que confiance, je préfère dire foi. Voilà. Confiance qui peut-être pour certains fait exclusivement penser à une émotion, à un affect, je préfère dire foi, ce qui indique mieux les modalités actives et relationnelles de la confiance. Un acte qui implique une forme d'abandon et de don. Comme dans les formules, j'ai foi en toi, je te donne ma confiance, je crois en toi. Et nous allons voir comment cet abandon et ce don peuvent se préciser comme déposition. Déposition au cœur conjoint de la foi et de la portance. Une déposition vitale pour le ressourcement de la vie désirante et la réouverture à la présence d'autrui. Deux volets dans cette partie. Le premier est de la foi à la déposition et le second, je ne sais plus, de la déposition à la présence. D'abord, quelques éléments de définition de ce que j'entends par foi ou confiance. En deux couches surtout. D'abord, situation cognitive et affective de la confiance ou de la foi. La foi consiste en une forme de pari et de certitude à la fois quant au fait que l'être auquel on fait confiance, cela peut être nous-mêmes, autrui, Dieu, un objet, la matière. Quand on travaille le bois, on a une certaine confiance dans les propriétés de la matière. Bien, cet être auquel on fait confiance va avoir une certaine constance et consistance, une certaine fidélité dans une certaine dimension de son être. On voit déjà une forme de circularité avec la définition de la portance, d'ailleurs. La foi, qu'elle soit naturelle ou religieuse, parce que Merleau-Ponty parlait d'une foi animale, la foi est un acte qui implique une adhésion avec un saut dans un relatif inconnu, sur un plan cognitif. Pas un total inconnu. La foi n'est pas aveugle, hein, ou alors c'est un peu déviant, hein, la foi du toutou au gourou. Non, elle exige un minimum de connaissances, elle est un acte qui convoque en son sein même, et comme une dimension essentielle, une participation de l'intelligence. Mais tout en s'appuyant sur une connaissance relative, qui permet de l'initier, cette confiance, la confiance est capacité à aller au-delà de l'insuffisance de ce que je sais. Capacité d'aller au-delà de l'insuffisance de ce que je sais, à passer outre la preuve. Et c'est bien là, derrière, un acte de l'intelligence, et non pas son sacrifice. Sur un plan plus affectif, maintenant, la confiance peut être favorisée, là aussi initiée, par un climat émotionnel et affectif positif, on peut l'espérer. Mais elle n'est pas, ne devrait pas être un coup de foudre qui se joue dans l'instant. Si elle est une dimension essentielle et fondamentale du lien, elle se travaille dans le temps, et même dans l'adversité, elle peut se vérifier dans une absence d'émotion, voire dans un climat émotionnel contraire. Voilà, l'élève qui est dans le lien éducatif, qui est par moment dit, alors, il ne ressent rien de positif pour l'enseignant, hein, il en bave, mais voilà, sur un plan émotionnel ou affectif, c'est pas, voilà, il n'y a rien, ou alors c'est bon. Mais c'est là qu'on vérifie la confiance, comme dans ça, la vérité, la solidité du lien. Deuxième niveau de définition, un peu plus existentiel, plus profond, que l'on peut déceler lorsque la confiance, comme on dit, est trahie. La déceler en creux, du coup, cette dimension plus existentielle. Quand la confiance est trahie, ce n'est pas simplement qu'on se dit qu'on a fait une erreur de jugement, d'appréciation, hein, que ce qu'on croyait probable s'est révélé faux, hein, donc dans ce que j'évoquais de la situation initiale, cognitive et affective de la confiance. Non, cela va plus loin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de trahison. Sentiment d'être abandonné, déstabilisé, dans une dimension plus existentielle. Situation qui nous montre en creux que ce n'est pas seulement du coup une certitude qui s'est jouée là, mais qu'une partie de mon être s'était déposée en autrui. Une partie de mon être, une partie du poids de mon propre être. Une dimension, mon corps, mon intelligence, de manière diverse d'ailleurs, hein. La confiance dans le chirurgien ou dans le dentiste, ou alors confiance en autrui dans la sexualité, évidemment, ce n'est pas la même façon d'investir le corps. Voilà. Enfin, dernière remarque sur cette approche de définition. La foi ou confiance, telle que je l'entends ici, est ouverture à l'indétermination, endurance de l'indétermination, indétermination cognitive et affective. Et au passage, donc, je signale une distinction importante pour moi entre foi et croyance. Non pas qu'il y ait incompatibilité entre les deux, mais une différenciation nécessaire. Dans un cas extrême, d'ailleurs, il y a une façon de s'établir dans un système de croyance, un certain rapport à un certain système de croyance, qui peut être une façon de ne pas avoir confiance en réalité, de ne pas donner sa foi, de ne pas vivre l'aventure de la foi. C'est le paradoxe d'un certain rapport à un système de croyance qui, chez certains, peut en réalité, paradoxalement, si on peut dire, protéger de la foi. Quand j'enferme autrui dans un système de croyance, alors on peut voir ça avec l'enseignant, avec les parents, avec les thérapeutes aussi, parfois. Oh là, oui, il se cache, c'est le piège même du métier. Voilà. Alors qu'il faut faire table rase pour chaque nouveau patient, chaque nouvel élève. Pas croire qu'on l'a déjà vu le cas mille fois. Si j'enferme l'autre dans un système de croyance, je ne lui fais plus, je ne suis plus en mesure de lui faire véritablement confiance. Alors maintenant, quelques esquissons rapidement les dimensions de portance de la foi, ou l'articulation entre foi et portance. La portance implique un double acte de foi, de la part de celui qui prête la portance, de la part de celui qui la reçoit. Du côté de celui qui est porté, la portance implique, suppose, un minimum de foi dans le médiateur, dans la résistance du sol, la solidité de ce qui est, dans cet autrui qui me porte. Et souvent, cela passe par l'expérience d'une contenance, de la limite, d'une bienheureuse finitude. D'un autre côté, la portance implique, mais là au sens de suscite, pas de suppose, mais de suscite, une ouverture confiante dans ce vers quoi la médiation est médiation. Une ouverture confiante à l'indétermination, à l'inépuisable, à un certain infini négatif. En retour, la portance va accroître ma capacité de confiance. Il y a un cercle vertueux, là, ou cercle vicieux en cas de déficit. Je suis porté, donc je crois, mais je ne peux recevoir la portance que si j'y crois, et pour cela il faut avoir été porté, etc. Autrement dit, la portance suppose la foi et l'engendre tout à la fois. Maintenant, du côté de celui qui porte. Pour prêter à autrui son rapport à l'être, il faut lui accorder foi dans le fait qu'il est capable d'être réinstitué dans l'assurance de l'être. Celui qui nous accorde cette portance, d'une certaine façon, le premier, a foi en nous. Une foi indéterminée dans le fait qu'il peut aller de l'avant, avec toujours un écueil possible, basculer de cette indétermination qui ouvre l'horizon à ce que j'évoquais d'un système de croyance. Basculer dans un système, dans un pseudo-savoir qui écrase autrui. Toujours de ce côté de celui qui porte. Autrui ne peut déposer, se déposer, que si je suis un minimum moi-même déposé à. Et je ne peux présenter autrui à que si je suis moi-même présenté à par un autre. Au fond, que prête-t-on à autrui dans la portance quand on dit prêter à l'autre son rapport à l'être ? Ce qu'on prête à l'autre, c'est sa propre déposition, son propre abandon, son propre consentement. Une ouverture à l'indétermination. Ce qu'il y a de relative indétermination dans l'ouverture initiale de la foi, une foi sans croyance particulière, ce qui ne l'empêche pas de s'en doter ensuite. Une foi dans la solidité de l'être, dans le fait que cela va tenir. Ce qu'il y a de relative indétermination dans l'ouverture initiale de l'espérance, une espérance sans contenu, sans représentation particulière de l'avenir, ce qui ne l'empêche pas, tout au contraire même, de s'en doter ensuite. Une espérance dans la positivité de l'avenir, dans le fait que l'on va pouvoir malgré tout avancer. Ce qu'il y a de relative indétermination dans l'ouverture initiale du désir, un désir sans projet, sans envie particulière, ce qui ne l'empêche pas, au contraire même, de s'en doter ensuite. Un désir de continuer à vivre, une capacité à se projeter vers l'avant sans représentation particulière. En retour, l'un des fruits majeurs de la portance est de réinitialiser l'ouverture vitale essentielle à ces grandes attitudes humaines que sont la confiance, l'espérance, le désir. Leur ouverture à l'indétermination, à ce que Merleau-Ponty appelait la profondeur de l'être. Deuxième volet de cette deuxième partie, de la déposition à la présence. Il est temps justement de parler pour elle-même de cette déposition que je viens d'évoquer, qu'on vient de rencontrer au cœur de la radicalité existentielle de ce que j'ai appelé la foi ou la confiance. Pour cela, je vais commencer par revenir à la question de la pulsion. Une tension locale suscite une poussée visant sa suppression ou sa diminution, et du coup, après la pression, il y a la décompression. Cela s'enracine dans des procédures de sauvegarde, de survie, ne serait-ce que du fait d'un système biologique qui est fatigué, qui a besoin de décrocher, de décompresser, de dormir. Et à ce sujet, Françoise Dolto a une approche intéressante de la pulsion de mort. Vous savez, notion si controversée en psychanalyse. Françoise Dolto met bien en valeur le fait que la vie désirante a besoin d'être régulièrement décompressée, détendue. Sinon, telle la corde d'un arc trop longtemps tendue, eh bien cette corde risque de se briser. D'où des moments de sommeil, de mise au repos, qui, selon Dolto, décrivent le cadre dynamique de la pulsion de mort. Bien, même si cette approche de la pulsion de mort est sans doute partielle, en tout cas aux yeux de certains, pas assez dramatique, elle touche, à mon sens, un point important. La vie désirante a régulièrement besoin d'être momentanément mise entre parenthèses pour qu'on puisse mieux la réinstituer, la recentrer, la retrouver dans ce désir de rien, qui n'est pas un désir du rien, réinitialiser le désir. Or, la portance, et c'est une contribution à son articulation comme avec sa différenciation d'avec le désir, la portance joue justement un rôle majeur par rapport à la mise au repos et au ressourcement de la vie désirante. Cette description que je viens de donner du rôle de la pulsion par rapport à la vie désirante se retrouve à mon sens dans l'importance. Cette mise en sommeil est dans le même mouvement une réinitialisation du désir, une réunification, une cautérisation des divisions qui sont intervenues par la multiplication des petits désirs ou la tyrannie et les conflits qui peuvent s'en suivre. Là, pour le coup, avec la portance. Je n'en dirai pas autant avec la pulsion. Retrouver l'indétermination du simple désir d'être, de vivre, la force de repartir de l'avant, en étant momentanément dépouillé de sa propre histoire, de l'histoire de sa vie désirante, de ses relations avec autrui, en ayant pu déposer tout cela, en étant dépouillé du monde et d'autrui. Oui, mais, justement, déposition n'est pas, ou n'est pas que, décompression. On n'a pas besoin de portance pour décompresser. Alors que l'on a besoin de portance pour se déposer. On peut, et il faudrait l'énoncer, décompresser tout seul. Mais souvent, on ne peut, la plupart du temps, on ne peut se déposer que dans les mains ou l'écoute de quelqu'un. La déposition va beaucoup plus loin et permet d'ailleurs que la décompression ne soit pas déprimante, morcelante, destructrice. Toutefois, la vie pulsionnelle et la logique même de la pulsion, qui est complètement saine et valide, enfin, implique qu'il faudra bien décompresser, quoi qu'il arrive, un moment ou un autre. On risque alors d'avoir à décompresser sans personne en qui se déposer, à décompresser dans la solitude, dans le vide. Et là, on rejoint la notion de pulsion de mort, mais dans un sens sans doute un peu plus destructeur que celui de Dolto. Ne pouvant rester dans le vide, l'être humain s'accroche et s'amarre à quelque chose qui n'est pas une véritable portance. N'ayant personne, il se dépose dans des substituts de personnes, des images, des idées, des idoles, des fétiches. Ou encore, il se dépose dans des substituts de relations, des expériences sensorielles fortes qui lui donnent l'illusion momentanée d'être porté, voire d'être aimé. Les drogues, par exemple. Avec autant de désillusions à la clé, d'emballement dans l'addiction, d'attachement aliénant, qu'il enfonce dans sa solitude. Des illusions de portance, fausses portances. La décompression n'engage pas d'elle-même un rapport à autrui. Il se produit cette même décompression dans l'acte de déposition qui, lui, pour le coup, engage un rapport à autrui. Derrière déposition, il y a un peu l'image aussi du souverain qui dépose sa couronne, hein, la déposition du sujet. La déposition implique quelque chose de central, de l'ordre de l'identité. Le sujet se dépose en tant que sujet pour être réinitialisé en tant que sujet. Être soulagé de soi, n'être plus en question. Je n'existe plus. Au sens de « je ne suis plus en question ». Et c'est enfin que j'existe. Je prends un exemple tout simple, celui d'un enfant qui vient le soir déposer sa journée, sa petite journée, déposer l'histoire d'un jour de sa vie désirante dans les bras de son père ou de sa mère. Ce qui lui permet d'être replacé dans le pur... Alors, on voit la dimension de décompression, hein, dimension pulsionnelle, et parfois même il s'endort. Hein, bon. Et ce qui lui permet d'être replacé dans le pur désir indéterminé de vivre, la couche la plus primordiale du désir du vivant. Alors, je voudrais maintenant un peu nuancer ce que je viens de dire au sujet de la pulsion, de la décompression et de la déposition. La mise entre parenthèses, s'agissant de la déposition, la mise entre parenthèses n'est pas celle du désir en tant que tel, mais celle des déterminations représentationnelles et affectives. Quand je dis que dans la portance reçue, je ne suis plus en question, dans cet apparent effacement du sujet, mais en réalité pour mieux le réinstituer, ce qui est mis entre parenthèses à distance, ce n'est pas moi et ce n'est pas mon désir. Ce qui est mis entre parenthèses, mis à distance, c'est un moi par les autres, un moi pour les autres, un moi au regard des autres, un désir aliéné par les autres. Et il faudrait, la liste serait longue, plein de variantes qui m'étouffent et écrasent le désir. Quand je dis « je ne suis plus en question », ce sont d'abord et ultimement un certain ensemble de rapports de moi-même aux enjeux, aux attentes, aux frustrations de la relation avec autrui, en tant qu'il pèse sur nous, nous angoisse, etc. C'est ça qui n'est plus en question. L'abandon à la présentation de l'être, l'abandon à la présence, implique une forme d'abandon de la représentation. Je renonce à pouvoir par moi-même me donner la présence des choses. J'abandonne la représentation qui est capacité de me rendre fictivement présent les êtres en leur absence, de simuler mes relations avec eux. Je suis libéré de l'affect et de la représentation en tant qu'il me donne un contrôle sur la relation. Contrôle qui fait en partie obstacle à l'évolution de la relation elle-même. Je renonce à savoir et ressentir en tant que ces affects et représentations sont mobilisés par la maîtrise fictive de la relation avec autrui. Je renonce à maîtriser les enjeux de la relation avec autrui. Ici, j'envisage affect et représentation comme des déterminations, des ceci, qui peuvent certes être médiateurs de notre ouverture à ce qui est, mais aussi qui peuvent faire écran entre nous et autrui, entre nous et les choses. La représentation a commencé dans cette capacité hallucinatoire du petit enfant à se rendre présent à la mère en son absence, capacité portée par la puissance de son désir. Mais il y a comme une perversion native de la représentation, au sens où la représentation est nativement fétichisante, parce qu'elle est cette capacité que j'ai de me rendre présent les choses, et en premier lieu et au plus haut point, autrui. C'est sa vertu. C'est au départ, si j'ose dire, une bonne perversion qui nous protège de la folie. Dans l'état affectif, dans le ressenti, il peut y avoir quelque chose d'analogue, l'affect en représentation, mais là au sens plus théâtral, en mise en scène de, un jouir de se donner à soi-même la présence de l'autre, l'amour, une illusion de portance. Le fétiche et l'objet transitionnel, et l'inévitable dimension fétichisée de l'objet transitionnel, jouent dans une maîtrise fictive de la présence et de l'absence d'autrui. Se donner à soi-même la présence et l'absence de la mère, être moins dominé par l'angoisse de séparation ou par l'angoisse de fusion, d'absorption, en jouant, en inversant les rôles parfois, ou encore figer la présence de l'être pour en jouir à volonté, fixer cette présence à travers telle représentation immuable que l'on veut thésauriser pour la rendre disponible à volonté, avec le pathétique enfermement du fétichiste qui s'enfonce paradoxalement et dramatiquement dans la solitude. Dans la portance et les dimensions de foi qui lui sont liées, il y a une déposition de ces modes de représentation. Déposition de l'inévitable part de fétichisation de l'affect comme de la représentation. Ce qui n'enlève rien par ailleurs à leur positivité. La vie représentationnelle et affective a besoin d'être réinitialisée par cette déposition. Ce faisant, on dépose aussi la maîtrise de l'absence et de la présence, la maîtrise des enjeux de la relation avec autrui. Il manque immanquablement et tragiquement la présence. Ce n'est pas renoncer à comprendre, ce n'est pas renoncer à être aimé, mais renoncer à une dimension d'avoir, de savoir et de pouvoir, de contrôle sur. Pour retrouver l'espace et le temps de se laisser aimer, de se laisser comprendre et, partant, d'aimer et de comprendre. Je renonce à savoir, à ressentir, mais, j'y reviendrai, c'est pour à nouveau percevoir, pour retrouver la présence. Pour retrouver la présence, il faut renoncer à ce qu'elle soit totale, renoncer à ce qu'elle soit garantie. Autrement dit, pour retrouver la présence, il faut consentir à une possible et relative absence. Ce sans quoi, paradoxalement, on ne sortira pas de la solitude. La foi perceptive s'ouvre à la présentation de l'être et se déshabille de l'habit fétichisant dont nous recouvrons les êtres pour en maîtriser la présence, la manquant par la même. La foi perceptive s'ouvre à la présentation de l'être et retrouve la présence par la même. Ce faisant, elle est condition nécessaire d'une libération de la solitude. J'en viens à ma dernière partie, qui s'intitule « Le corps de l'être ». Sortir de la solitude. Le corps de l'être, sortir de la solitude. La portance nous libère et nous réinstitue dans ce désir indéterminé qui nous remet en situation de nous laisser aimer et de nous laisser comprendre, et par là même de pouvoir aimer et comprendre à nouveau. La déposition est déposition. J'abandonne ma position, je renonce à ma position, mais pour pouvoir être resitué, être remis en situation. De la déposition à la resituation, et ceci parce que la portance produit une réincorporation. Incorporation qui délivre une situation. Délivrée au sens de double, de libérer, de donner, livrer, délivrer comme on délivre une lettre, libérer d'une position mortifère, fatigante, écrasante, angoissante, en resituant autrui à sa place, dans un corps vivant, plus grand. Celui qui reçoit la portance retrouve sa place, est remis en place et à sa place. Par exemple, par la mise à l'épreuve de la limite, heureuse finitude qui fait que je ne suis pas jeté dans le vide, abandonné à l'angoisse. Alors, avec les enseignants spécialisés, c'est quelque chose là qui est par moments une problématique éminemment concrète. Hein. Vous savez, un petit peu aujourd'hui, on peut avoir tendance à... Il y a une sorte d'interdit du toucher, alors soit parce que toucher c'est coucher, vous voyez, avec la pédophilie, voilà. Et en même temps, avec les élèves qu'ils ont, de tous âges, hein, parce qu'on voit de tout, y compris certains qui enseignent en maison d'arrêt, en prison, le corps à corps, là, on leur laisse pas le choix. Hein, voilà. Et alors comment être dans son corps et quel type d'exercice de l'autorité hein, dans une dimension de corps à corps. Voilà. Donc là, être remis en place et à sa place, c'est des choses que l'on parfois on travaille de manière très concrète, phénoménologie du geste. Cette limite, cette bienheureuse limite qui fait que je ne suis pas jeté dans le vide, elle peut être donnée par quoi ? Bon, il y a toutes sortes d'exemples, par une maison, les fondations, les murs et le toit du bâtiment qui m'abrite et que je suis autorisé à habiter, un corps plus grand qui m'intègre et sur lequel je peux m'appuyer, peut être donné par la loi ou la règle, etc. Je pense à nouveau à l'exemple de l'enfant qui dépose l'histoire d'une journée de sa vie le soir dans les bras de son père ou de sa mère, qui lui redonne sa place, lui donnant l'espace d'être là. Être là, et c'est tout. Être là, ce qui ne paraît pas grand-chose, et qui est pourtant l'essentiel, parce que c'est purement existentiel. Être là, en étant dépouillé de toute essence. Je suis, et cela est bien ainsi. Mais je suis, parce que je ne suis pas seul. La portance nous sort de la solitude, à la différence de la pure décompression pulsionnelle qui nous laisse seuls et, parfois, en morceaux. En un sens, on ne peut vraiment se déposer que dans un autre corps, ne serait-ce que dans ce que Merleau-Ponty appelait la chair du monde. La portance s'enracine bien dans un corps à corps qui, en un sens, n'est pas incorporant, mais qui, en un autre sens, est éminemment incorporant. Il ne suffit pas de buter contre les limites du corps détruit. Il faut un geste qui intègre. Peut-être faut-il dire alors intégration plutôt qu'incorporation, je ne sais pas. Il s'agit non seulement d'être relié à un autre corps, mais de faire partie d'un corps plus grand. Corps familial, institutionnel, corps social. Remarque corollaire, très importante. On ne porte jamais seul. On ne peut pas porter seul. Il faut être un corps, au sens avec un grand C, corps commun. Si on porte seul, on porte mal. On ne prête plus l'importance que l'on reçoit. Deux, l'importance va inexorablement, inévitablement dévier, en portance perverse, faute de tiers. Quelques remarques maintenant sur... je ne vais pas vous dire quoi, vous verrez. Il n'y a pas que l'importance que je reçois de quelqu'un, mais aussi l'expérience à plusieurs, c'est-à-dire au moins à deux, d'une portance commune, d'être ensemble porté par l'être comme tiers inclus de notre lien, enveloppant, enveloppé et engendrant, engendré de chacun de nous et de notre relation. Cette portance commune est à mon sens un fondamental anthropologique, fondamental à la fois au sens de l'archaïque et de plus ultime. La portance commune est un fondamental où se joue une structuration existentielle vitale de l'enfant déjà, et où se joue une part essentielle du bonheur humain. La portance dont l'enfant a besoin est celle de la mère et du père, mais pas seulement. Il a aussi besoin d'être porté par un corps commun, on l'a dit, mais aussi de faire l'expérience d'être à plusieurs, porté par, de faire l'expérience donc d'une portance commune. Celle-ci, cette portance commune, peut se jouer à l'échelle de toute forme de communauté humaine, en tant qu'elle est fédérée par un projet commun, lequel implique une forme de communion de désir, d'adversité et d'action. Alors, ce projet commun peut être très élémentaire, très simple, hein. Marcher ensemble, chanter ensemble, faire quelque chose ensemble, hein, comme l'atelier. Je pense à des expériences d'ateliers dans des classes pour des classes TED, c'est-à-dire pour des troubles envahissants du développement des enfants autistes. Et faire chanter ensemble des enfants autistes. Donc ça peut être très élémentaire, mais en même temps en impliquant des dimensions anthropologiques fondamentales et transversales. Parfois, dans le silence d'une adversité commune, nous faisons l'expérience, pas forcément très consciente d'ailleurs, d'être là, ensemble, d'être portés ensemble avec toutes les choses qui sont, toutes ces choses qui existent ensemble, comme aimait dire Claudel et à sa suite Merleau-Ponty. Toutes ces choses qui existent ensemble et nous qui existons avec elles. Formulation simple, et métaphysique, si j'ose dire, d'une expérience fondamentale qui touche à l'expérience d'une portance commune. Ici, anthropologie et métaphysique sont profondément liées. Alors, poursuivons justement, pour terminer, cet accomplissement de l'anthropologique dans l'ontologique. J'ai dit tout à l'heure, je renonce à savoir et ressentir, mais c'est pour à nouveau percevoir. Eh bien, en deçà de la médiation d'autrui, en fait, on n'est jamais en ça. Bon. Parce que tout est recouvert d'autrui. Les enjeux, des attentes, de la relation avec autrui. En deçà de la médiation d'autrui, l'importance est susceptible d'opérer dès la moindre perception, pour reprendre une formule chère à Merleau-Ponty. En effet, dans la perception, racine vitale de l'intelligence, éminemment couplée avec donc, la foi perceptive, dans la perception, n'y a-t-il pas déjà impliqué une proto-déposition à la portance du monde? Plus exactement, dans une terminologie merleau-pontienne, il ne s'agit pas du monde. Il s'agit moins du monde que de sa profondeur, ce qu'il a appelé à un moment donné la chair du monde. Profondeur qui est l'être même. Une proto-déposition à la portance exercée par l'être qui soutient toutes ces choses qui tiennent ensemble. Je prends un exemple. L'exemple que l'on peut faire dans une randonnée de plusieurs jours en haute montagne, par exemple. Outre les enseignants spécialisés, je fais aussi depuis très très longtemps de l'accompagnement de personnes en difficulté psychologique, psychiatrique. Mais sur un mode qui n'est pas en complément de ce que peut faire le psychiatre, le psychothérapeute ou le psychanalyste, et qui passe par le travail manuel, quelque chose là donc, que je vais évoquer, que j'ai parfois vécu aussi avec des enseignants spécialisés, comme la randonnée en haute montagne. Donc, l'expérience que l'on peut faire dans une randonnée de plusieurs jours en haute montagne ou dans le désert, où l'on est progressivement réinstallé dans la perception, où l'on est progressivement dépouillé de tout un encombrement, où l'on en vient à déposer toute une épaisseur de détermination dont on avait recouvert le monde, recouvert de contrôle, de représentation, de fétiche, pour nous laisser faire par la portance des choses qui sont et qui sont simplement. C'est l'épreuve du désert que beaucoup ont de la difficulté à vivre, au moins dans un premier temps, ou qui croient avoir par avance voilà, que ça va être impossible. Tant ils sont esclaves de la représentation, de l'image, des objets, des mots. Cette épreuve du silence, du désert d'artefacts, du désert culturel, angoisse certains, au moins dans un premier temps. Il y aurait bien des exemples à prendre, parfois un peu amusants. Voilà. Bon. Imaginez bien hein, les ados et leurs MP3, les intellectuels et leurs livres. Dans le désert ou en haute montagne, il n'y a rien. Et en même temps, il y a tout, parce qu'il y a l'essentiel. Les choses sont. Elles ne sont pas d'abord ceci ou cela. Elles sont. Et aussi, elles sont de manière extrême. Il fait très chaud, il fait très froid, il fait très lumineux, il fait très sombre. Un dépouillement des déterminations par réduction de leur multiplicité et aiguisement de quelques-unes. On est ramené à des contrôles de base, des nécessités de base. Dormir, manger, trouver de l'eau, trouver un lieu de bivouac, s'abriter, ne pas mourir en glissant sur la glace. Des nécessités de base qui nous dépouillent de tout ce qui a été stratifié par-dessus. On n'a plus la place, l'espace, le temps de penser à tout cet univers qui est le nôtre, humain, professionnel, affectif, relationnel, surencombré de nos volontés de contrôler l'absence et la présence d'autrui, de contrôler le lien. Alors, là, je semble avoir pris des exemples un peu radicaux, mais en fait, ils ne font que pousser plus loin des phénomènes qui sont en jeu dès la moindre perception. Dès la moindre perception, dès ce rapport élémentaire au monde qu'est la foi perceptive, se joue comme un appel des choses à me déposer pour les percevoir. Il y a, même à l'échelle de quelques secondes, cette possibilité-là, dans la perception, où je ne peux pas percevoir sans accommoder, sans cette passivité active qui consiste à me laisser faire par les exigences du grain du sensible, qui m'oblige à un minimum de lâcher prise. Le monde sensible nous sollicite, exige de nous abandon pour pouvoir être vu, comme disait Merleau-Ponty. Dès la moindre perception, se joue un appel des choses et de leur profondeur commune à me déposer. Si je ne consens pas à cet abandon, à cette déposition, je ne peux pas les percevoir. Il y a des personnes, on les sort devant les plus beaux paysages, et elles ne voient rien, ou si peu, elles ne sont pas ou si peu dans la perception. Tellement elles sont blessées, angoissées, tellement elles ont besoin de contrôler. Voilà, il y a des lieux, là, sans tomber dans la caricature, pour parler un peu de l'essence. Il y a aussi les moments de dépression. On est dans le vide et il n'y a même plus d'abandon possible à la portance minimale de l'être. Le monde ne me fait plus rien. Je n'arrive même plus à percevoir, parfois très concrètement, une mauvaise reconnaissance des formes, des couleurs. Quand je perçois, je suis en mode de présentation et non de représentation, et je sens sans ressentir. Pour Merleau-Ponty, en effet, lorsque je perçois, je ne suis pas dans le ressentir, je suis au monde, je perçois. Ma perception se fait sur les choses, je ne suis plus à moi-même, je suis pris dans un mouvement d'existence qui est extatique, qui est transcendance. Je vois sans savoir que je vois, sans avoir à y penser. Là, il faudrait pouvoir dire un mot ici de la conception de l'inconscient chez Merleau-Ponty. Je vais juste citer deux phrases inédites. Le grand projet ontologique Être et Monde des dernières années. La perception est le véritable inconscient. La perception est le véritable inconscient. Ou encore quelques mois plus tard, ça pour le coup ça a été publié. L'inconscient est le sentir lui-même, puisque le sentir n'est pas la possession de ce qui est senti, mais dépossession de nous-mêmes à son profit. Ouverture à ce que nous n'avons pas besoin de penser pour le reconnaître. L'inconscient primordial serait le laisser-être, le oui initial. Fin de citation. l'inconscient primordial serait le laisser être, le oui initial. Un oui initial à quoi? Pour Merleau-Ponty, au cœur de l'inconscient, au cœur de notre être au monde, il y a un oui initial à la profondeur, un consentement à être désobjectivé par l'être. Ce consentement à être désobjectivé par l'être, même si la formulation est assez abstraite, voilà, est au cœur de la déposition. Être désobjectivé par l'être, ce qui ne peut évidemment se faire que si l'être n'est plus recouvert de toutes les fausses portances, de toutes ces caricatures de portance, voire de portance perverse. Ce serait d'ailleurs intéressant, là, de reprendre les conceptions de l'être que Merleau-Ponty dénonce comme autant, justement, de fausses portances ou de portances perverses. La plénitude absolue et l'entière positivité de l'être sartrien, le Dieu des philosophes, Dieu immuable et impassible, au plus haut point pour Merleau-Ponty, il s'agit de Leibniz, auquel il oppose le Dieu caché de Pascal, auquel il oppose le Dieu qui a besoin de nous de Claudel. Mais le Dieu de Leibniz, là, tel que Merleau-Ponty en parle, celui du meilleur des mondes possibles, celui de la théodicée, un Dieu de survol qui voit tout, ce faisant qui broie la foi, l'espérance et le désir. Bon, je ne développe pas. Voilà. Mais être désobjectivé par l'être, ce qui ne peut se faire que si l'être est profondeur, que si l'infinité de l'être est un infini négatif. Un être tout à la fois inachevé et inépuisable, comblant, frustrant et adverse, invisible au sens de l'invisible chez Merleau-Ponty, mystérieux, blessé aussi. Merleau-Ponty, c'est tout à fait étonnant, à plusieurs reprises, y compris dans sa conception de Dieu. Il parle d'un être blessé. Juste une dernière citation de Merleau-Ponty, inédite. « Cet être en profondeur, qui se lève vers nous pendant que nous nous levons vers lui, et qui est la source de tout sens. » Cet être en profondeur qui se lève vers nous pendant que nous nous levons vers lui et qui, venant ainsi à notre rencontre, nous sort de la solitude. Seule la portance nous fait sortir de la solitude. Pas la pulsion, pas même le désir. Seul l'être fait sortir de la solitude. Et autrui, mais en tant que médiateur de la portance de l'être. La portance implique une déposition qui n'atteint toute sa radicalité qu'en descendant en deçà du langage, dans ce que Merleau-Ponty appelait le silence de celui qui perçoit. Merleau-Ponty rajoutait, Sartre ne connaît pas ce silence. Dans le silence de celui qui perçoit, dans le silence et en un sens la solitude de celui qui se dépose dans le silence de l'être, dans le silence de la foi perceptive où l'on abandonne la représentation pour retrouver la présence, la foi perceptive qui nous ouvre, nous rouvre à l'être et nous permet ainsi d'être à nouveau. Dans le silence et la solitude de celui qui est, car être, c'est ne pas être seul. Celui qui perçoit plonge dans le monde du silence, il plonge dans cette profondeur dont Merleau-Ponty fera un synonyme de l'être même et fait l'épreuve de ses attaches ontologiques. Celui qui se dépose, descend, en deçà de l'être au monde et de l'être à autrui, jusqu'à l'être à la profondeur du monde, descend, en deçà d'autrui et du monde, jusqu'à l'être à l'être. Être à l'être qui fait tenir ensemble toutes choses, qui est co-être et co-naître. Être à l'être qui nous fait être, donc co-être et co-naître. Je vous remercie.
Un très grand merci pour cette si belle conférence qui, je crois, nous a tous rejoints dans notre expérience profonde, même si nous n'avons pas nécessairement l'expérience de l'éducation, enfin d'un milieu de l'enseignement spécialisé. Mais je crois que, à travers ces exemples que vous nous avez donnés, chacun a pu reconnaître des expériences fortes de son existence. Et en même temps, vous avez su thématiser et montrer les enjeux métaphysiques, anthropologiques de cette belle notion de portance. Donc là, nous avons maintenant une grosse demi-heure pour pour discuter, pour échanger, peut-être pour poser des questions sur tel ou tel point. De toute façon, comme il y avait beaucoup de, au passage, beaucoup de, d'éléments que vous avez suggérés sans pouvoir les approfondir, puisque votre conférence était si riche, donc nous avons aussi, nous pouvons aussi poser des questions sur tel ou tel élément qui n'a été que suggéré et qui n'a pas pu être approfondi.
Merci Antoine. Alors, tout dépend si on prend, si on en fait une question métaphysique. J'ai un fond aristotélicien là qui sans doute résiste, hein, qui fait que malgré ce que je dis, vous sentez que pour moi l'être est de soi désirable. Mais voilà, dans l'expérience humaine, dans le réel, si on peut dire, si on peut, pour ne pas dire tout de suite l'être, hein, et pas de soi symbolisable, verticalisant, on peut se retrouver devant, j'évoquais l'abîme, hein, ou encore on peut évoquer le mur, bon, Henri Vallon, pour s'opposer à Piaget, évoquait ce qu'il appelait les ultra-choses. Et Merleau-Ponty reprend ça. Puisque Henri Vallon disait, on a l'impression que Piaget voit l'intelligence se développer uniquement en relation avec des objets, des choses qui sont permanentes, dont on peut épuiser le sens, que l'on peut manipuler, dont on peut faire le tour, qui sont accessibles. Et Vallon disait, il reste de l'inaccessible. Il y a des réalités qui... et en même temps, ça sollicite l'intelligence. Et Merleau-Ponty reprend cette notion et en un sens, elle m'ont tronqué. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne, voilà, il ne voit que plus que du coup que ce qui est désirable dans les ultra-choses. Il y a de l'inaccessible, des choses que nous vivons, en tout cas. Hein, j'évoquais le rapport à l'eau comme pouvant être porteur ou l'inverse. Hein. Pour celui qui est dans cette phobie-là, l'eau n'est pas désirable. Voilà. Donc, la pédagogie, d'ailleurs, un des grands enjeux, c'est de renverser l'antiportance-importance pour une même réalité. Souvent, ce sont les mêmes réalités qui peuvent nous bloquer. L'intelligence, dans un premier temps, elle est sollicitée, puis ensuite, elle est paralysée. Les mêmes réalités qui, en même temps, vécues autrement, d'ailleurs en n'étant pas seules, en étant accompagnées, peuvent se révéler petit à petit, au contraire, source de désir. Pas de réponse, peut-être c'est pas suffisant comme réponse, je me suis bien conscient. Mais voilà, donc... Même si métaphysiquement l'être est désirable, n'empêche qu'avec ça, on ne va pas très loin si on veut accompagner le rapport d'une personne à la réalité qui l'entoure. Ça ne suffit pas. Il faut aussi envisager cette dimension du vertige, cette dimension de l'antiportance des éléments, parfois le père qui écrase. Oui. Non. Mais. Non, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a évidemment un volet politique de cette question. Vous avez parfaitement raison. Oui, oui. Non, mais je n'ai pas. C'est évidemment une dimension importante. Oui. D'accord, mais...
Pardon, oui, alors Je n'ai pas vu, mais si.
Oui.
Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît.
Alors, je comprends bien. Alors, quel est le rapport du coup avec ce que vous disiez au début qu'on ne peut pas se donner l'importance à soi-même? Qu'est-ce qui... Oui. Oui. Par autre, quelque chose d'autre que moi. Donc, je vais essayer de répondre en deux temps. D'abord, ce que j'ai voulu dire, quand on ne peut pas se donner à soi-même l'importance, au sens où on ne peut pas l'halluciner, on ne peut pas se la donner de manière fictive. D'une certaine manière, bon, ce serait, c'est pas qu'on peut se donner le désir d'autrui, mais il y a une forme de fantasmatique, de fantasme, d'hallucination, là, plus efficace, l'importance. C'est quelque chose que l'on ne peut pas scénariser tout seul dans son petit cinéma intérieur pour se la redonner à soi-même. Voilà. Par rapport à la question, est-ce que ça commence pas toujours par autrui? Eh bien, pour un certain nombre de personnes en difficulté, blessées, précisément blessées, comme toujours, d'abord dans la relation avec autrui, il peut s'avérer beaucoup, enfin, fécond, efficace, de, au moins un certain temps, retrouver l'importance dans le rapport aux éléments, dans le rapport à la nature, dans le travail, par exemple, le travail du bois, hein, où autrui peut être là, mais il est à côté de moi, on n'est pas face à face en train de parler, on peut avoir un projet commun où je peux être seul si je suis capable de l'être. Voilà. Et là, où en fait, en permanence, comme dans toute forme de relation, de rapport A, se rejouent des enjeux et des angoisses aussi, de la relation avec le corps de l'autre. Hein. Le bois, la matière est vécue comme un autre corps. Mais il y a là, avec un en passant les premières angoisses de fatiguer son corps et enfin, toutes sortes d'angoisses possibles, il peut y avoir plus facilement l'apprentissage, la réconciliation hein, avec un autre corps que le mien, à travers ce corps inanimé, mais néanmoins répondant à un certain nombre de lois physiques dont on va pouvoir, que l'on va pouvoir apprivoiser et qui peut me redonner confiance dans la solidité des choses, de ce qui est, confiance du coup aussi après en moi-même, hein, et après ça, un retour progressif à une relation plus directe avec autrui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. On pourrait décliner ça en détail avec donc la dimension de l'atelier, et puis ce que j'évoquais de la montagne, ou encore le débroussailler, ou encore démolir, puis ensuite construire, mais déjà démolir, voilà. Tout ce qui peut se jouer là, d'une relation qui n'est pas directement une relation avec autrui, mais ce sont bien des choses de l'ordre de la relation avec autrui qui se jouent là, et où on peut retrouver, réparer une certaine forme de portance dans la relation à la matière, voilà, corps à corps avec la matière. Ça éclaire un peu.
Question, oui. Allez-y, donc. Père.
une belle question. Je n'ai pas réfléchi, mais merci, je vais y réfléchir. Oui, bien sûr, ça me paraît très pertinent. Mais simplement, voilà, quand je parlais de la pauvreté, c'était pas, par exemple, vraiment au niveau, par exemple, des vœux religieux. Je n'ai pas non plus d'ailleurs parlé de la chasteté en réalité, hein, mais quand je parlais de la pauvreté, c'était presque un peu, enfin, épistémologique, hein, cette pauvreté en essence de l'importance. Et s'agissant du désir et de l'articulation entre désir et portance, et de la question du toucher aussi, que j'ai suggéré l'importance de ne pas cantonner le désir lui-même à la dimension du désirer l'autre, avec cette dimension d'incorporation, hein, qui peut aller si loin dans la rencontre des corps et dans la communion interpersonnelle, mais qu'en même temps, il y a un corps à corps et une dimension de désir vers l'autre qui n'est pas de cet ordre-là. Et voilà. Alors, s'agissant de l'obéissance, j'ai un petit peu évoqué l'autorité. Hein, voilà, quand je disais redonner à l'autre sa place, je jouais un peu sur les mots aussi, le remettre en place. Hein, voilà. Certainement, effectivement, quelque chose à développer dans ce sens-là. Ouais. J'y penserai, merci. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Alors, d'abord, sans vouloir me défausser, c'est parce que j'ai pas voulu parler de tout, mais néanmoins, votre question est plus que pertinente, elle est essentielle. Et sans doute, d'ailleurs, aussi, c'est parce que, enfin, il y a d'autres raisons au fait que je n'ai pas abordé, en tout cas, oui, je n'ai pas donné du tout de place suffisante à cette dimension-là. Il y a une raison qui est liée à Merleau-Ponty, qui est facile à donner, c'est que pour ce qui est de Merleau-Ponty, il y a vraiment un primat de la perception et un primat de la chair et une façon, comment dire, une lacune de son, une sérieuse lacune de son anthropologie, à mon sens, s'agissant de la parole et du langage, où il en reste à l'idée que la parole et le langage vont uniquement apparaître comme une simple sublimation de la chair, du corps dans son évolution. Et en particulier, comme j'ai évoqué Dolto, Merleau-Ponty est très marqué par ce qu'il appelle le schéma corporel, et qui en réalité n'est pas le schéma, ou pas que le schéma corporel des neurologues, mais qui déjà va largement du côté de l'image inconsciente du corps au sens de Dolto. D'ailleurs, Merleau-Ponty et Dolto se connaissaient. Mais s'il demeure une vraie différence, une incompatibilité entre la conception de la chair chez Merleau-Ponty et la conception de l'image inconsciente du corps chez Dolto, malgré tout ce qui peut les rapprocher, c'est bien cette dimension de la parole. Voilà. Merleau-Ponty, bon, je pourrais l'expliquer un peu plus avant, hein, c'est lié à son intention philosophique et son pari philosophique, et presque sa méthode, n'était pas à même de prendre conscience de la façon dont la parole d'autrui, à commencer par la parole de la mère, peut avoir un impact direct sur la structuration, y compris la plus charnelle, enfin, de l'enfant. Voilà. Donc là, il y a une lacune dans l'anthropologie de Merleau-Ponty. Alors, après, dans mon approche là, qui s'est voulu, je ne sais pas ce que c'est voulu d'ailleurs, enfin bon, mais disons quand même assez élémentaire, je crois néanmoins que, même si ça manque tout à fait à mon propos, ça je le reconnais volontiers, il y a néanmoins, y compris dans l'impact même de la parole, la nécessité de revenir à un en deçà de la parole, hein, ne serait-ce que pour l'impact même de portance de la parole, la dimension du silence. Essentiel. Voilà. Pour que la parole puisse être reçue, la dimension de perception est essentielle. Vous voyez, donc c'est pas, je dirais, du tout incompatible, c'est plus une préparation à. Maintenant, cette dimension manque à mon propos. Et je vous remercie d'ailleurs de le signaler. Vous avez parfaitement raison. Alors, pour répondre sobrement, je réponds oui, dans les deux cas. C'est pas un oui très explicite, du coup, mais c'est clair que la figure du Père est très présente, à, je pense, à ce travail. D'ailleurs, ça ne va pas sans paradoxe, parce que c'est en même temps une figure singulièrement absente, à mon sens, chez Merleau-Ponty. Voilà. Hein? Mais justement, hein, comme je le disais, l'importance, elle est à la fois appelée, même introduite, hein, par certaines de ses idées, certains de ses textes, certaines lignes transversales de sa philosophie, de sa dernière phénoménologie. Et puis, en même temps, cette figure du Père est non seulement absente, je crois que c'était Lyotard qui disait il y a à la fois pas trop de pères et pas assez de pères chez Merleau-Ponty. Pas assez au sens où il n'est pas là, et trop de pères au sens où il est là. Mais alors vraiment, là, c'est l'antiportance. Enfin, c'est une figure très abîmée. Très abîmée. Voilà. Donc, en tout cas, oui, ça, la figure du père est très présente à ce travail sur la portance. Portance et inconscient. Le lien et l'intuition que j'ai, c'est un peu plus qu'une intuition, c'est que le lien est éminemment fort. J'ai invoqué un petit peu la conception de l'inconscient chez Merleau-Ponty. Mais là, en fait, puisque tu soulèves cette question, en fait, est-ce que tu as une question derrière ça ? C'est pas simplement portance et inconscient. Est-ce que tu as une question plus précise sur la façon dont ils pourraient être reliés ? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait, et il est même largement, à mon sens, hein, marqué. Mais alors, c'est un inconscient, du coup, qui n'est pas l'inconscient de refoulement au sens, disons, le plus classique, mais en plus ce que Merleau-Ponty, suivant d'ailleurs en cela une piste, hein, ouverte par Freud lui-même, ce que Merleau-Ponty appelle l'inconscient primordial, qui est profondément structuré et déstructuré, édifié et abîmé par la portance reçue ou les portances perverses ou anti-portances. Voilà. Je crois qu'il marque vraiment l'inconscient, ce qui nous marque le plus en profondeur. Hein, mais un inconscient qui est d'abord inconscient par, je dirais, par position, par situation anthropologique, avec les conséquences épistémologiques que ça a. C'est tellement axial, tellement nodal, c'est tellement l'axe même de mon être, de ma personne, que je ne peux pas le voir. Voilà. Et donc c'est lié aussi avec cette fragilité de la portance qui échappe, hein, à la mémoire, qui échappe, y compris aussi, qui est si difficile à appréhender sur un plan théorique, si bien d'ailleurs qu'on est assez souvent dans la métaphore, hein, où j'ai beaucoup employé, peut-être beaucoup trop d'ailleurs, le terme « être ». Qu'est-ce qu'il y a bien derrière, hein ? C'est pas simple. Hein. Voilà. Faire attention. C'est difficile, c'est-à-dire qu'évidemment quand moi je leur parle de la portance, c'est pris dans une année de cours, et c'est pas juste une heure et quart, c'est beaucoup plus. Hein. Mais manifestement, en tout cas, ça les marque beaucoup. Enfin, d'ailleurs, ce sont eux d'ailleurs qui me demandent d'écrire un livre sur le sujet. Donc j'ai fini par croire que ça valait le coup. Mais vous savez, ça les marque vraiment. Simplement, évidemment, c'est pas le premier cours de l'année. Hein. commence pas par là. Mais oui, ça les rejoint en tout cas énormément dans ce qu'ils peuvent rencontrer, percevoir, des détresses, des mal-être de ceux à qui ils ont affaire. Hein. Sachant que c'est d'une diversité institutionnelle et donc humaine étonnante entre ceux qui sont dans les réseaux d'aide, les RASED, ceux qui sont dans les SECPA, bon, pour les institutions les plus courantes, mais ceux qui sont dans des classes avec donc des enfants trisomiques ou des enfants autistes, dans les IME, les IME Pro, dans les instituts de rééducation avec des adolescents violents, en maison à l'hôpital avec des enfants en fin de vie. Enfin, c'est vraiment les petits-enfants jusqu'aux adultes et des difficultés comportementales ou cognitives ou aux choses les plus ou handicaps les plus profonds, physiques, mentaux, voilà, c'est très très divers. Mais pour tous, en tout cas, ça touche une dimension vraiment anthropologique, vraiment importante pour eux. Voilà. C'est-à-dire que, si vous voulez, le cognitivisme ambiant, qui est peut-être une des lignes de fond majeures de leur formation, en réalité ne les aide pas beaucoup sur le terrain. Donc ils ont besoin d'autre chose. Donc en fait, c'est un parcours de formation qui part de la question de l'intelligence, en reprenant justement Piaget, voilà. Mais pour ensuite mieux le compléter, le critiquer. Là, voilà. Et on en vient à la question du corps, du désir, de la relation avec autrui. On a tendance à finir par ces questions-là. Ben, ce qui est clair, c'est que c'est pas parce qu'en étant petit, si tant est qu'on ait eu la chance de pouvoir le vivre, on a bien déposé suffisamment de soir dans les bras de papa ou maman, si tant est qu'on ait eu la chance de pouvoir le faire, que ensuite c'est bon pour le restant de ses jours. C'est sûr que c'est quelque chose qui est perpétuellement remis en jeu. C'est pour ça que je faisais notamment ce rapprochement avec la décompression comme liée à la logique pulsionnelle. Eh bien, c'est tout le temps que nous avons besoin de déposer, de nous déposer. Voilà. Ce qui est très beau d'ailleurs, c'est que, puisque vous évoquez les âges de la vie, ça peut se faire avec un, entre guillemets, plus petit que soi. C'est-à-dire que parfois, on évoquait des enfants ou des adolescents handicapés profonds, y compris mentalement, peuvent exercer une portance sur autrui, y compris sur l'adulte ou un petit enfant. Parfois, on donne la main à un enfant. Qui donne la main à l'autre? C'est compliqué. Voilà. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que la relation de confiance et de portance peut instituer, entre guillemets, plus petit que soi, dans une forme de transcendance. Il y a bien des exemples. C'est Tim Guénard qui raconte comme ça un exemple précis avec, je crois, un jeune trisomique qui, il y a un événement de portance pour lui tout à fait étonnant. Des très beaux exemples comme ça. Mais dans l'enseignement spécialisé, c'est un peu aussi tout le temps qu'on. Et après, effectivement, ce serait, pour cette question des âges et de la vie, ce serait intéressant de voir un petit peu ce qu'il en est, comment la portance se modalise suivant les différences d'âge de la vie. Hein. Alors, entre l'enfance et l'adolescence, ou entre ces différentes crises d'adolescence, en réalité, que vit l'être humain, sa vie, voilà, comment, qu'est-ce qui est. Quels sont ses besoins de portance? Est-ce qu'il y a des choses qui se différencient? Je ne sais pas, ce serait un travail, effectivement. C'est intéressant.
Paul Corset?
Ben, ça, je suis mal placé pour y répondre. je veux dire, tout interprète, surtout devant justement une œuvre inachevée, à partir du moment où il interprète, va déterminer une partie d'indétermination. Hein, voilà. En même temps, je pense avoir eu toujours le souci de ne pas faire les choses à la place de Merleau-Ponty, ou alors quand je l'ai fait, je le dis. C'est-à-dire, comme là, je l'ai fait aujourd'hui, j'ai bien conscience que ça, c'est par moments impulsé par lui, et en même temps, des choses qu'il n'a pas faites. Voilà. Mais à ce moment-là, c'est plus interpréter Merleau-Ponty, c'est faire autre chose. Bien sûr, bien sûr. Non, on entend.
S'il y a une dernière question, sinon nous allons conclure. Mais si par hasard quelqu'un a une question encore qu'il souhaiterait communiquer, ou une réaction qu'il souhaite communiquer, eh bien sinon, je pense que nous pouvons remercier très chaudement Emmanuel de Saint-Aubert. Je vous remercie aussi tous de votre participation, de vos questions, de votre témoignage, monsieur. Et je pense que nous ressortirons de cette conférence en voyant les choses un peu autrement, à une autre profondeur, puisque ce mot profondeur est un mot que Merleau-Ponty aime bien. Donc, un très grand merci. Et donc, je vous invite aussi, si vous le voulez bien, pour tous ceux qui le peuvent, à participer aux frais de cette soirée que vous trouverez des urnes à la sortie. D'avance, merci. Vous avez senti le public.
Oui, j'écoutais bien.
Très bien, que vous aviez un public.